Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'une femme qui savait très très jeune ce qu'elle voulait faire. Ce qu'elle voulait, c'était aller à la rencontre des autres et surtout aider, être au service de tous. On y va pour les détails.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Ehsan Mellouki, bonjour.
Bonjour madame Yasmine.
Comment ça va? Marhaba bik, merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui.
Alhamdoulilah, merci pour l'invitation et ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin.
Merci infiniment. Alors votre spécialité vous fait, on va dire, plonger dans les entrailles, au vrai sens du terme, des êtres humains, c'est bien ça?
Exactement. Donc, je suis gastro-entérologue et professeur de l'enseignement supérieur au niveau de la faculté de médecine de Tanger. Et en même temps, je suis chef service du service de gastro-entérologie au niveau du CHE de Tanger.
Alors, l'une des toutes premières femmes chef de service de gastro-entérologie, c'est bien ça?
À Tanger, je suis avec l'équipe qui a instauré ou qui a participé à faire monter les premiers services au niveau du CHE. C'est-à-dire que je suis là à Tanger depuis 2017 et donc je participe, plutôt j'ai créé l'équipe de gastro-entérologie. Au début j'étais toute seule, mais là je suis, mon équipe en est 26 pour le moment, depuis 2017. Et avec deux enseignants de plus, et on a aussi des résidents, des internes en formation.
Alors, vous avez dû changer de ville, justement?
Ben oui, exactement.
Vous avez dû changer de ville. C'est une décision facile à prendre quand on se dit, très bien, j'ai une opportunité dans une autre ville, est-ce que je bouge?
Ben, c'était très difficile de prendre la décision dans le sens où j'étais à Fès. Et vous savez, Fès, c'est une très belle ville. Le CHE de Fès aussi, c'est un très beau CHE. J'ai appris beaucoup de choses là-bas avec mes maîtres. Et le changement n'était pas facile, n'était pas aussi programmé. Alors, c'est un changement qui est venu comme ça, peut-être parfois sur un coup de tête, parce que mon mari aussi, il est dans le domaine. Et à un certain moment, on voulait changer. Mais c'est vrai que ce n'était pas très étudié. Le changement par la suite, je ne vous cache pas que c'était très difficile en arrivant ici parce qu'on revient un petit peu 10 ans en arrière, parce qu'il n'y avait pas le CHE, il n'y avait pas la faculté qui venait de commencer. Et donc, on s'installe dans un milieu où il faut tout refaire à zéro. C'est-à-dire que...
Ouvrir un cabinet, se faire son nom, se faire sa place.
Un cabinet, mais on travaille dans l'hôpital public au début et par la suite, en attendant que le CHE puisse être finalisé. Le défi qu'il y avait, c'est de faire monter un service. En fait, on n'est pas préparé à cette mission. Une mission de faire monter un service, de former une équipe et d'être un leader en fin de compte. Donc, c'est quand même une mission qui est très difficile. Et il fallait conduire le navire parce que si je m'arrêtais, le navire va s'écrouler. Et donc, du coup, je ne vous cache pas qu'au début, après le changement, c'était très difficile. Et au début, je me posais des questions pour le changement. Est-ce que c'était bon de le faire ou pas? Mais ce qui me rassurait le plus, c'est que j'étais en famille. Il y avait mon mari qui m'a énormément aidée. Et puis aussi la famille autour, ma mère, mes sœurs, mes frères. Donc ça m'a aidée, ça m'a poussée un petit peu au début. Il faut dire aussi que Tanger est une très belle ville. Elle a beaucoup de potentiel. Et sur le plan santé, on a aussi besoin de participer au développement de cette ville sur le plan sanitaire.
Absolument. Ça, c'est bien dit. C'est la responsabilité de tous de s'unir justement pour développer chaque partie du royaume. Alors,
exactement.
Alors justement, une décision qui n'est pas facile à prendre. Pour la spécialiste que vous êtes, oui, parce que vous avez les compétences, vous saviez qu'il fallait contribuer justement à l'essor d'une région. Mais maintenant, pour la femme que vous êtes, pour l'épouse, pour la maman aussi que vous êtes.
Alors là, il faut, en fait, c'est pas facile, il faut trouver l'équilibre. L'équilibre entre médecin, enseignante et entre maman. Donc à la maison, je suis la vraie maman avec mes enfants, donc... J'essaie de le faire au maximum, de trouver cet équilibre, parce que quel que soit le poste qu'on peut avoir dans la vie, je pense que le poste le plus important pour une femme, c'est de bien gérer son foyer, de l'éducation des enfants, et là c'est la participation des deux, et mon mari m'aide énormément. Et ben il faut, ouais. Je cuisine, je fais de la gastro-entérologie comme spécialité, mais à la maison, je fais de la gastronomie aussi.
Bien, ça, c'est bien dit.
donc, du coup, il faut gérer les deux. Et je pense, si on veut réussir, si on veut être bien, il faut réussir les deux missions. C'est sûr que c'est difficile pour une femme. Il y a beaucoup de femmes qui ont des charges, qui ont des postes qui sont très importants, mais elles doivent gérer leur foyer. Parce que réussir son travail, son métier, et ne pas réussir son foyer, je pense que c'est le plus grand échec. Et il faut trouver l'équilibre et il faut essayer de gérer les deux. C'est très, très difficile, mais je pense qu'on y arrive à un certain moment.
Mais est-ce qu'on est plus indulgente avec les hommes dans une même situation?
Je pense oui,
Yek.
Parce qu'on n'a pas le choix, oui, on n'a pas le choix, c'est notre société, on est comme ça, et on ne peut pas lui demander de faire la même chose. C'est vrai qu'on fait la même chose au travail, mais à la maison, je pense qu'une maman, une femme fait beaucoup plus qu'un homme, c'est normal, c'est comme ça que ça a été créé, hein. Il faut accepter les règles.
Alors justement, au sein de votre équipe, celle que vous êtes en train de monter dans ce CHU de Tanger, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes ou est-ce qu'il y a plus d'hommes que de femmes?
Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a beaucoup plus de femmes et je pense que la médecine au Maroc devient beaucoup plus féminine que masculine. Il y a beaucoup de femmes et je pense que ça commence à changer.
Alors justement, dans votre gestion de votre équipe, est-ce que vous prenez en considération cet aspect-là de la vie d'une femme? C'est-à-dire que une femme, sa vie n'est pas que son travail. Lorsqu'elle a une famille, bien sûr, pour celles qui en ont, qui a des enfants et qui choisit d'avoir cet équilibre, est-ce que vous arrivez à faire le compromis au niveau du travail aussi, à gérer cet aspect-là? Est-ce que vous le comprenez? Ou bien, quand on est au boulot, ben on ne peut pas comprendre ça, en fait.
Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'au boulot, c'est vrai qu'avec la responsabilité qu'on a, on est obligé d'être vraiment... C'est pas sévère, je dirais pas sévère, mais il y a des règles de travail qu'il faut respecter. C'est sûr que toute mon équipe, pour moi, je suis leur grande sœur, mais dans le travail, je suis un petit peu sévère. C'est la nécessité du travail. On est en train de gérer des patients, on est en train de gérer la vie des gens. Et du coup, on ne se permet pas l'erreur. N'empêche que, bien sûr, il y a des femmes, il y a des jeunes qui sont avec moi. Et donc, je comprends quand elle a son enfant qui est malade, quand elle a un problème familial. Au contraire, c'est ça l'esprit d'équipe. C'est qu'il faut toujours raisonner à la place de l'autre et se mettre à la place de l'autre pour pouvoir gérer son équipe. Mais il ne faut pas créer des barrières ou des murs entre les membres de l'équipe, sinon ça ne va pas marcher. Et si je suis arrivée aujourd'hui, si je suis à la tête de ce navire, si vous voulez, c'est grâce à mon équipe. C'est parce qu'il y a des gens qui sont derrière, je les forme, mais en même temps, ils m'aident pour avancer, on avance ensemble. Donc c'est ça ma devise pour réussir ce projet.
Alors... justement, Della Ehsan, la vie n'est pas faite, ce n'est pas une équation parfaite en fait, et l'équilibre n'est pas une équation parfaite. L'équilibre est une forme de danse avec laquelle il faut aller souplement. Pour toutes ces femmes qui nous écoutent maintenant et qui sont, on va dire, dans un cas de figure où elles doivent, à un moment de leur vie, peut-être foncer dans leur carrière. Parce que c'est ce qu'on attend d'elles, parce que c'est leur moment, parce que c'est le moment où elles peuvent se prouver, etc. Mais qu'à côté, il y a la famille, les enfants, etc. Et elles ont peur de faillir. Est-ce qu'il ne faut pas, finalement, parfois, ce n'est pas de l'égoïsme, mais parfois, même le boulot peut être une priorité, parce que c'est le moment de foncer. Et c'est ça, en fait, pour moi, l'équilibre, c'est quand on est consciente qu'on est en train de donner plus à un domaine de vie qu'à un autre, à un moment ou à un autre, mais en pleine conscience. Je le fais parce que je sais pourquoi je le fais. Et ça va s'arrêter à un moment. À un autre moment, je donnerai la priorité à un autre domaine de vie. Et ainsi de suite.
Je pense exactement. C'est-à-dire que ça ne va pas à la même vitesse. C'est sûr qu'au début, quand on est en train de se former, de préparer, parce qu'on passe par des concours, on passe par des examens, c'est sûr qu'on donne plus d'intérêt au côté professionnel. Moi, je me rappelle quand j'ai passé mon premier concours pour devenir enseignante, j'avais accouché et c'était pendant mon congé de maternité que j'ai préparé. Et grâce à ma mère et ma belle-mère qui m'ont beaucoup aidée, j'ai pu préparer, j'ai passé mon concours. À chaque fois, c'était comme ça. C'est-à-dire que c'est deux trucs qui vont en parallèle. Mais parfois, on donne beaucoup plus d'importance au côté professionnel, peut-être parce que c'est le moment de foncer, comme vous avez dit. Mmh. Et à un moment, ça s'arrête ou ça prend une vitesse qui est un petit peu plus longue pour donner beaucoup plus d'importance au côté familial. Donc, il n'y a pas de vrai équilibre, en fait, mais ça bascule
absolument
des deux côtés pour pouvoir y arriver parce que comme étant femme, je pense que c'est très différent pour les hommes. Les hommes, ils foncent et ils ont la femme à côté, que ce soit la maman, que ce soit l'épouse, qui vont faire l'autre boulot. Pour une femme, ce n'est pas le cas. Le boulot d'une maman, il ne peut pas être remplacé. Le boulot d'une maman, c'est la maman, c'est pour les enfants, c'est le foyer. Et c'est un équilibre qu'il faut créer aussi au sein du foyer. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, je me dis que c'est ça. Hein. En fait, on met les choses entre les mains du bon Dieu et on fonce et on avance pour arriver. Et en plus, il faut aimer. Il faut aimer, il faut aimer ce qu'on fait. Et moi, je voulais toujours être médecin. Donc, du coup, je suis passée par des périodes difficiles parce que j'ai sillonné le Maroc avec mes parents. Donc, à chaque fois, c'était les changements d'école, changements de tout. Donc, à chaque fois, c'était un défi. Et même au niveau des facultés, j'ai fait 3 facultés au Maroc de médecine. Donc, du coup, je pense que j'ai une vie qui est pleine de défis. Et je pense que c'est le défi qui nous trace le chemin, qui nous pousse à arriver.
Bah donc, le changement, vous connaissez, quoi. C'est pas nouveau.
Ah oui, depuis l'enfance. D'ailleurs, quand on me pose la question, vous êtes d'où ?
Vous n'avez pas quoi répondre.
Je reste quelques secondes avant de répondre, parce que moi, je suis originaire de mes parents, mes grands-parents de l'Est du Maroc, plus précisément de la région de Berkane, dont je suis très fière. Mais je suis née à Rabat, j'ai passé une grande partie à Al-Hosima, qui est une très belle ville. J'ai été à El-Jadida, Marrakech, faculté de médecine de Casa, de Rabat, de Fès, et là, je suis à Tanger. Donc, regardez, j'ai sillonné. Et à chaque fois, c'était, surtout quand on était enfant, il fallait quitter ses amis, ses proches et tout ça, il fallait changer à chaque fois, il fallait reprendre. Donc c'est quelque chose que j'ai appris vu le métier de mon père, l'armement qui était militaire. Et du coup, le changement pour moi, ça me faisait pas très peur, mais je me disais qu'il fallait du temps pour s'adapter. C'est vrai quand on est un petit peu plus avancé dans l'âge, c'est difficile, mais c'est gérable, je dirais. Mmh.
Alors justement, quand on est fille de... On dit que les enfants des militaires ont une éducation particulière parce que on est militaire à l'extérieur et à l'intérieur de la maison. Est-ce que c'est vrai?
je dirais oui, parce que le papa Lachmo qui était militaire, ben, il y avait la première des choses, il fallait respecter la hiérarchie. Donc il y avait certains règles qu'il fallait respecter. C'est-à-dire, à la maison, c'était un tout petit peu militaire, pas trop, mais c'était ça. Et donc, on a appris ça dans notre vie, et peut-être là, parfois, je le fais inconsciemment avec mes enfants, avec les membres de mon équipe. Et pour moi, le plus important, c'est le respect. Je le mets au premier niveau, le respect de la hiérarchie, le respect de l'ancien, le respect de celui qui est plus grand, le respect de nos maîtres. Pour moi, c'est important. Par exemple, mes maîtres, même si actuellement, je suis enseignante, comme mes maîtres qui m'ont enseigné. Mais quand je vois, par exemple, mon maître qui m'a enseigné, ben, j'ai toujours, au début, c'est toujours ce respect qui s'impose. Mmh. Je pense que c'est très important dans les relations humaines.
Et d'ailleurs, vous dites mon maître, vous ne dites pas mon prof.
Oui, parce que c'est les gens qui m'ont enseigné, je pense que ce sont des maîtres, je leur dois du respect, de l'estime, et quel que soit le temps qui passe, ils resteront toujours mes maîtres, je le dis, je leur ai dit, et j'essaie d'inculquer ceci aux membres de mon équipe. C'est très important, je pense, le respect. C'est vrai qu'il y a l'ancienne école, on dit l'ancienne école, la nouvelle école. Ce que je voudrais attirer l'attention, c'est qu'actuellement, les générations des étudiants en médecine, c'est pas notre génération, c'est pas l'ancienne génération. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de tendances à la dépression, malheureusement, et ils sont beaucoup plus stressés, c'est une nouvelle génération. Et nous, comme enseignants, ce qu'il faut faire, c'est accompagner ces jeunes. C'est-à-dire, parfois, c'est le tutorat, ce qu'on appelle le tutorat. Vous avez un jeune dans l'équipe, dans les étudiants, dans les externes qui sont chez nous dans le service, et il y en a plusieurs qui passent chez moi, qui ont un profil dépressif. Et souvent, parce que ce sont des gens, vous trouvez qu'ils ne voulaient pas faire médecine et les parents leur ont imposé de faire. C'est pourquoi je dis aux parents, laissez vos enfants faire ce qu'ils veulent, et non pas ce que vous voulez. Parce que vous avez, par exemple, des jeunes, ils font médecine parce que leurs parents veulent qu'ils soient médecins. Et là, c'est une grande erreur. Je pense que partout, même pas seulement dans les facultés de médecine, mais aussi dans les autres écoles, il y aura plus tendance à la dépression des jeunes étudiants. Donc là, c'est pas l'enseignant, c'est pas le médecin, c'est pas le responsable, mais il y a plusieurs facteurs de risque. Et souvent, ce sont des jeunes qui sont susceptibles, qui sont prédisposés à faire ce type de problème. Donc ce qu'il faut faire peut-être, c'est avoir des cellules de suivi des jeunes étudiants qui sont peut-être, qui ont des profils dépressifs, qui ont des problèmes psychologiques. Il faut les suivre. Moi, je me rappelle à la faculté de médecine de Fès, il y avait un jeune qui avait le même problème et qui est passé chez nous au service. Il était en troisième année de médecine et quand il est passé, il m'a dit « Madame, je voudrais faire la thèse avec vous parce que je l'accompagnais, je l'aidais ». Et effectivement, il a fait 10 ans pour avoir sa thèse et non pas 6 ans, plutôt non pas 7 ans, mais il a fini par faire sa thèse, à soutenir, je l'ai aidé, il est arrivé jusqu'au bout et il faut imaginer la joie de ses parents le jour où il a soutenu. Donc là, il faut
mais lui, est-ce qu'il était heureux? Est-ce que lui était heureux?
Oui.
Il voulait devenir médecin ou c'était pour
bien
faire plaisir?
Ouais. Non, il voulait devenir médecin, mais il avait un problème psychologique, un petit peu une dépression sévère. Donc je pense que là, vous avez peut-être tiré la sonnette d'alarme. Oui, il y a des profils d'étudiants qui sont dépressifs, qui ont des problèmes psychologiques, et il faut en parler. Et il faudrait créer des cellules pour les suivre au sein des facultés, que ce soit médecine ou les autres facultés. Et je pense que là, pour éviter qu'il y ait un drame ou un problème par la suite.
Mais en même temps, justement, Hassan Malouki, est-ce que c'est sain de laisser une personne qui a des soucis psychiatriques, une fragilité psychologique, est-ce que c'est sain de la laisser soigner d'autres personnes?
Là, c'est une grande question.
Oui.
Je pense que non, mais ça dépend du niveau de problème psychiatrique ou psychologique ou ce que vit l'étudiant. Mais je pense que le diagnostic doit être fait précocement. Et s'il faut l'arrêter, lui dire qu'il faut changer de métier ou de direction, il faut le faire au moment du premier cycle, c'est-à-dire première, deuxième année de médecine. Ou au plus tard, troisième année de médecine, parce qu'on a des petits groupes qui viennent au service. Et là, on peut les contrôler, on peut les voir.
Les observer.
Les observer, ouais. Exactement. Mais une fois arrivé à la septième année, je pense que c'est difficile. Donc là, c'est vraiment, il y a un autre travail parallèle qui doit se faire au niveau des facultés marocaines, au niveau des facultés de médecine aussi, c'est de dénicher ces profils-là très tôt et peut-être de les accompagner ou bien de peut-être les aider à changer de destination pour éviter, bien sûr, le drame. Bien sûr, un médecin doit être en bonne santé mentale et morale et physique, parce qu'on soigne des gens. Donc si on n'est pas bien psychologiquement, ça va être très difficile. Parce qu'il faut dire, même si on est bien à la base, il faut dire que notre métier nous crée des petites instabilités, il faut le dire. Un jour on est bien, un jour on n'est pas bien, parce qu'on vit avec des patients.
Absolument.
Je pense que les moments les plus difficiles que je vis, moi, en tant que médecin, c'est le jour où je dois annoncer une mauvaise nouvelle dans une consultation. Par contre, il faut annoncer, il faut accompagner le patient, il faut se mettre à la place du patient, à la place de la famille. Et là, c'est toute une gestion, c'est très difficile. Mais il ne faut pas être que médecin, on est humain. Et il faut associer les deux. Et associer les deux, il faut avoir un cœur qui est vraiment un peu dur. Et c'est pas facile au début. Moi, je me rappelle quand j'étais en cours de spécialité, j'étais vraiment en stage en France. Et il fallait annoncer à un patient qu'il avait un cancer, malheureusement. Et en lui annonçant, j'ai annoncé, je suis sortie de la chambre, je suis partie en pleurant. C'était difficile au début. Et même pas dernièrement, je me rappelle, il y a 2 mois, il y avait un jeune qui est venu chez nous au service, on lui a fait une fibroscopie, il avait 11 ans. Et on a posé le diagnostic d'un cancer digestif, 11 ans.
À 11 ans, oui.
Ouais. J'ai fait la fibro, et j'ai terminé mon examen, je suis sortie, j'ai pris ma voiture, j'ai quitté l'hôpital, je ne pouvais pas. Donc, à un certain moment, on est des êtres humains, on n'est pas que des médecins, on est des êtres humains, on est sensible à des degrés différents, mais on sent, moi personnellement, je dis que la plupart des médecins, je ne sais pas, mais on sent l'autre. Mais là, c'est un autre équilibre qu'il faut créer, c'est un équilibre mental, sentimental, parce qu'il faut se montrer fort devant les patients, même si il faut être, on est sensible, comme j'ai dit tout à l'heure, à des degrés différents, mais il faut être fort devant un patient. Et donc là aussi, c'est l'autre challenge qu'on a, nous, en tant que médecins, c'est de travailler sur soi chaque jour, chaque moment, et d'avancer.
Ça fait beaucoup de choses à gérer dans une journée pour une femme, hein, quand même.
Exactement.
Parce que derrière la blouse blanche, c'est la femme.
Ben oui, c'est la femme qui doit tout gérer. On fait tout et on doit tout faire à la perfection. Et chapeau à toutes les femmes qui font plusieurs choses en même temps.
Ouais, c'est ce qu'on dit. On dit qu'on est multitask.
Oui, exactement.
Absolument. Vous auriez voulu faire autrement ? Vous auriez voulu être un homme, Leila Ehsan Mellouki ?
Non, peut-être. Non, pas du tout, non. Je suis heureuse comme je suis, mais le rêve d'enfance, c'était, je me rappelle, j'étais enfant, je voulais faire de la découverte, comme je me rappelle, il y avait une émission de Jacques-Yves Cousteau qu'on passait à la télé. Et je voulais être Jacques-Yves Cousteau comme Jacques-Yves Cousteau, aller explorer les mers, les océans et tout ça. Mais en grandissant, je me dis, là, oh, c'est pas possible, hein, il faut revenir à la réalité. Et du coup, depuis, c'était vouloir être médecin. J'ai aussi une cousine magnifique qui est médecin, qui m'a précédée, que j'adore, que j'admire. Et puis, oui, c'était médecin. Et mes parents, quand ils m'emmenaient pour passer des concours, d'école de commerce et tout ça, ben, je partais pour passer, pour leur faire plaisir, mais je ne voulais pas être que médecin. Pour aider les gens, c'est un métier qui est très noble. Et je pense que c'est un métier pour ceux qui l'aiment. On fait de la psychothérapie dans notre métier. C'est-à-dire, moi, le jour où je ne travaille pas, quand je suis en congé de maternité, c'est comme si je n'en vais pas bien. Et ça m'est arrivé de raccourcir mon congé de maternité ou de faire des sauts à l'hôpital. Parce que je me sentais bien. Je me sens bien quand je fais la consultation, je me sens bien quand mes patients évoluent très bien. C'est ça, on vit maintenant avec ça, donc c'est une réalité. Et ça fait partie de notre psychologie de chaque jour. On est bien quand on forme des gens, quand on forme des résidents, qu'ils arrivent, qu'ils sont bien formés, on est content. Ça, c'est très important. C'est des choses qui nous font plaisir maintenant. Et bien sûr, à côté, il ne faut pas oublier la famille, les enfants, donc ça aussi... On gère et il faut faire arriver les deux navires en même temps.
Absolument, absolument. Leila Ehsan Mellouki, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui avec votre franchise et votre franc-parler. Merci beaucoup, Leila.
Merci, Yasmine, et à très bientôt et merci pour cette invitation.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.